Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahi la yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem. Rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rami Sheikh, on avait commencé il y a deux semaines à parler de ce péché extrêmement grave qu'est le zina, péché qui fait partie des petits signes de Qiyama, comme le prophète avait expliqué que viendra une époque où l'adultère deviendra quelque chose de généralisé. Et nous ne pouvons que constater à notre époque, en 2008, en 2009, comment est-ce que le zina est devenu quelque chose de répandu dans la société qui ne concerne pas une tranche d'âge particulière. Ainsi, certains parmi vous écoutent la radio, il y a une radio, pas celle qui est la plus connue, qui dit beaucoup de non-sens, mais une autre radio un peu plus intelligente. Il y a un débat toute cette semaine, il y a une chaîne particulière, une fréquence, où il y a un débat pour une semaine. Et tous les matins, il y a des gens qui appellent, qui disent ce qu'ils pensent à propos de tel sujet. Et c'est un sujet, si quelqu'un a l'occasion d'écouter, dans les embouteillages ou autre chose, hein, c'est les premiers rapports sexuels de leurs enfants. C'est-à-dire que de nos jours, les jeunes ont des rapports sexuels de plus en plus jeunes. Si on regarde les statistiques, Allah Musta'an, parfois ça commence à 15 ans, parfois ça peut même commencer à l'âge de 13 ans. Dis donc, il parle, c'est, le débat est adressé aux parents, à dire votre enfant entre au collège. Déjà entre au collège, à quel âge on entre au collège? En 6e, on a 11 ans ou 12 ans. Dit, c'est le moment où votre fils ou votre fille va faire sa première rencontre. Et donc, comment vous, en tant que parent, réagirez-vous, ou bien vous réagissez déjà, lorsque votre fils ou votre fille vous dit qu'elle a un petit copain ou une petite copine, et jusqu'à où vous pouvez aller, laisser vos enfants aller? Alors, il y a des parents qui vont se montrer très ouverts, que la sexualité, c'est quelque chose qui fait partie de la construction psychologique de mon enfant. Il a besoin de ça pour s'épanouir, pour devenir un vrai homme ou devenir une vraie femme. Malheureusement, c'est le discours de la société. Et lorsque, malheureusement, si quelqu'un ose appeler et dire que nous, on a des règles précises, que la relation sexuelle ne peut se faire que dans un cadre licite, tout ce qui se fait en dehors du cadre licite, hein, c'est considéré comme adultère. Même les chrétiens, même les catholiques, ils ont cette conviction. Nous avons cette conviction, les catholiques ont cette conviction, les juifs ont cette conviction. Le zina est interdit, qu'on a vu il y a 2-3 semaines, le zina, l'adultère est interdit dans tous les livres qu'Allah a révélés. Mais personne n'oserait le dire. Pourquoi? Parce que si quelqu'un ose dire cela à la radio, il dit, mais vous vivez à une autre époque, monsieur. Hein, on n'est plus à cette époque où on enferme les gens, où on vit dans des monastères. Dans ce cas, il faut mettre votre enfant dans un monastère. C'est-à-dire que si on confie nos enfants à la société, il est tout à fait concevable que notre enfant ait ses premiers rapports en 6e, 5e. S'il a tenu jusqu'au brevet, jusqu'au 3e, c'est peut-être un enfant pieux, hein, pour la société. C'est un enfant particulier. Et d'ailleurs, depuis, allez, remonte à... Quand nous, à notre époque, on était au collège, au lycée, déjà, il y avait des distributions de préservatifs dans les cantines. Est-ce que c'est normal, ça? Ça a commencé il y a 12 ou 13 ans de cela. Dans les cantines, on distribue des préservatifs aux garçons, aux filles. Disent que oui, il y a trop de sida, il y a trop d'IVG. Ce matin encore, il y avait un débat. Des filles de plus en plus petites, de plus en plus jeunes, je veux dire, elles demandent des interventions volontaires de grossesse, d'accord? Et donc, pour trouver une solution, un palliatif à cela, ils distribuent des préservatifs dans les cantines. Bon, certains, ils s'amusaient, ils faisaient des ballons bon mao avec. Bon, tant mieux, c'est pas grand-chose. Mais est-ce que, dans certains sens, ce n'est pas inciter les jeunes de donner le matériel? On donne le matériel, et c'est comme si qu'ils disent, bon, on normalise la chose, mais prenez vos précautions, c'est une chose naturelle, ça fait partie de l'instinct humain, vous vous construirez psychologiquement par cela, mais prenez des précautions parce qu'il y a la maladie. La seule chose, le seul rempart qu'il y a entre la liberté sexuelle bestiale et la société, le seul rempart qui existe entre cette ouverture d'esprit, cette liberté bestiale et notre société, c'est les distances du sida et des MST. Qu'Allah nous en protège, on ne souhaite cela pour personne. Mais s'il n'y avait pas ça, hadith wala haraj serait tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, viendra une époque, ça m'a dit qu'avant la fin des temps, ça sera les derniers êtres humains sur la terre, les gens auront des rapports intimes dans la rue, comme ça, sans haya, sans pudeur. Elle dit comme les ânes, comme les animaux, les himars, comme les ânes, hein, ils s'accoupent, les gens ils feront pareil. On est à deux doigts là de nos jours. Et comme on voit, ils fliettent, ils collent tellement qu'ils ne peuvent pas les coller ou bien ils pas coller entièrement. Il n'y a plus de pudeur, Allah Musta'an. On avait expliqué comment c'était un péché donc dangereux qui est devenu d'actualité.
Il en a tiré un peu en retard, hein, ce message a passé un peu en retard. On avait expliqué également que le prophète Salam avait bien dit que ce qui craint le plus pour notre communauté, c'est les femmes. Le plus grand fitna, c'est les femmes. Et c'est comme ce regardez, hein, bon, on ne va pas entrer dans trop de détails, hein, enfin, on ne va pas entrer dans les détails justement, parce qu'on aimerait terminer ce chapitre et en sortir. Également, le prophète avait expliqué que lorsqu'un musulman a compris le zina, le iman, le ruh, le iman, l'âme quitte le corps de cette personne. C'est-à-dire, iman ne peut pas cohabiter dans un corps qui est en train de désobéir Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant l'adultère. On avait expliqué les six choses qu'il y a dans cette personne, qu'Allah enlèvera la bénédiction dans son rosi, cette personne deviendra détestable aux yeux des gens. Vous regardez la personne, vous ressentez de l'aversion. Pourquoi? On ne sait pas. Il n'a rien fait. Mais il y a quelque chose, il y a une obscurité. Tout comme quand quelqu'un, il est dans le dîn, il y a une lumière sur son visage, la personne qui s'adonne à ses passions comme ça, le zina, sans crainte d'Allah, il y a une obscurité qui s'installe sur le visage et dans le cœur de cette personne qui fait que les gens n'ont même plus envie de le regarder, de le parler, ni de le fréquenter. On avait expliqué, ça c'était la semaine dernière, comment notre prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde contre les châtiments concernant l'adultère. On avait vu que notre prophète, lors du voyage nocturne, avait vu des hommes et des femmes nus dans un tanour, c'est-à-dire dans un genre de four avec une ouverture, et de temps en temps, le feu de l'enfer, c'est pas un feu ordinaire, le feu de Jahannam, il poussait ces gens jusqu'en haut, et puis il retombait, il s'écrasait, et puis le feu revenait, etc., etc. C'était un châtiment pour l'éternité. Et ce châtiment concernait les hommes et les femmes qui accomplissaient le zina. Parce que, mes chers frères, le zina, c'est la concrétisation de l'obéissance aveugle aux passions et le fait de mettre sur le côté tout ce qu'Allah a rendu haram. La taqwa, c'est quoi? Je fais rien qui peut mettre Allah en colère. Et le zina, c'est quoi? J'ai envie, je vais faire des efforts pour le faire, même si Allah l'a rendu haram, parce que je fais que suivre mes instincts, mes passions. Vous voyez? Ça, c'est la concrétisation de la désobéissance totale d'une personne et la preuve de l'absence totale de crainte d'Allah. Parce qu'un musulman qui se dit que Allah me voit pour chaque fait, chaque geste, jamais il ferait ça. Jamais il prendrait 5 euros dans un portefeuille ou il volerait un truc. Jamais il mentirait, parce qu'il sait qu'il y a les anges qui inscrivent tout, et avant ça même, Allah il voit, il observe, et les actions de certaines sources sont présentées également au prophète alayhi salatu wassalam. Un musulman qui a tout cela en lui, qui a cette conviction, il ne le ferait pas. Donc, quand quelqu'un est prêt à succomber au plaisir, à aller jusqu'au zina, c'est que vraiment la personne n'a pas de crainte d'Allah, ou alors elle a une fausse image d'Allah dans sa tête. Je fais des péchés, mais Allah, il va pardonner. Allah est Ghafur Rahim, Allah me pardonnera à la fin. On avait expliqué que malgré la description du Jahannam, j'avais dit la fois comment c'est un endroit terrible, on avait expliqué, il y avait cette femme qui à l'époque croissante avait fait cette bêtise, malgré ça, elle a exigé à subir la punition de la dunya. Pourquoi? Parce qu'elle savait que le jour de Qiyamah, un homme ou une femme qui se retrouve devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal avec ce péché dans son livret de mauvaises actions, c'est quelque chose de catastrophique. Alors maintenant, pour en terminer, pour conclure avec ce sujet, on a expliqué comment c'est un péché, comment c'est grave, etc., etc. Maintenant, la solution, comment s'en sortir? Parce qu'on a dit, il n'y a pas eu une époque comme maintenant où le zina est aussi accessible. Peut-être que même à l'époque de nos parents, de grands-parents, il fallait sortir en cachette, il fallait aller au bal, peut-être fallait, avant il n'y avait pas sortir en boîte de nuit, il y avait des balles, il fallait peut-être vraiment, pour draguer une fille, il fallait écrire un poème comme ça, il fallait mettre un bouquet de fleurs comme ça. Déjà, plus besoin de grand-chose, un SMS ou claque des doigts, un message sur Facebook, et c'est de la faute. C'est-à-dire que le zina est accessible, et même à l'époque, que vous soyez, que les personnes soient musulmanes ou non, il y avait une certaine pudeur. Même si les gens n'étaient pas musulmans, il y a 50 ans, 60 ans de cela, les relations sexuelles en mariage étaient toujours considérées par les anciens comme quelque chose de sale, de mauvais. Et de nos jours, tout est permis. Alors, comment s'en sortir en 5 points? Premièrement, ça c'est le premier rempart. Le premier, celui qui arrive à mettre en pratique ça, c'est fini le zina, inshallah, il en sera immunisé. C'est mieux que le vaccin contre le H1N1, que tout le monde dit que peut-être c'est bon, peut-être ça donne plus de maladies qu'autre chose, mais ce vaccin-là, ça c'est garanti ça. Première chose, c'est quoi? Radbul basar. Mais c'est le plus dur. C'est une pilule amère à avaler. Le contrôle, contrôler son regard. Allah Ta'ala dit qu'il dit aux mu'minina yaghuddu min absarihim. Allah Ta'ala demande aux musulmans de baisser leur regard. Et quelques versets plus loin, le même ordre est demandé aux femmes également. Tant l'homme doit apprendre à contrôler son regard, tant la femme doit apprendre à contrôler son orgasme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est faux de croire qu'il n'y a que les hommes qui sont tentés vers le zina. Non, la femme aussi est tentée vers le zina. Shaytan agit avec l'homme de la même manière, Shaytan agit avec la femme. Et notre prophète alayhi salatu wa sallam nous expliquait que le regard, c'est sahmun masmumun min siham iblis, que le regard, c'est une flèche empoisonnée parmi les flèches de Iblis. Parce que c'est le péché le plus facile et le plus discret. Regardez quelque chose qui nous était interdit, ça prend quelques secondes, clac clac, c'est comme un flash. Quand vous passez près des radars, ils vous flashent en une seconde. Pareil, vous voulez flasher, enregistrer l'image en une seconde, personne ne vous voit. Voler, on peut vous voir. Mentir, on peut connaître qu'il a menti, etc., etc. Mais un regard, c'est vite fait. Shaitan nous embarque facilement et c'est quelque chose d'ouvert. À n'importe quel moment, on peut le faire. Et le prophète m'a dit, celui qui arrive à contrôler son regard par crainte d'Allah, Allah Ta'ala mettra dans son cœur une lumière. Avec cette lumière, ce musulman trouvera le halawatul iman, il trouvera la douceur de la foi. Et vous savez qui sont les gens qui avaient trouvé la douceur de la foi? Les sahaba, les tabi'in, les tabi'in, ces gens qui, lorsqu'ils étaient dans la masjid de la salat, ils étaient les plus heureux. Lorsqu'ils quittaient, ils devenaient malheureux. C'est-à-dire, leur cœur était attaché au culte, au ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous en sommes extrêmement loin. Mais celui qui arrive à contrôler son regard en permanence que pour Allah, par amour et crainte d'Allah, Allah Ta'ala mettra cette lumière, Inch'Allah, dans son cœur. Et également le regard, mes chers frères, c'est le premier pas vers le zina. On avait déjà expliqué il y a quelque temps ce petit poème qui dit que ça commence par un regard, un sourire, un salam, une parole et ensuite il y a une rencontre. Et puis on pourrait rajouter ensuite il y a un jahannam également, qu'Allah nous protège. Et Shaitan a fait en sorte, il m'a dit que oui, mais le fait de regarder, c'est pas grand-chose, mais il ne fait pas zina, mais il regarde. On a dit non, mais il regarde pour marier un jour. Il y a beaucoup qui disent ça, mais il regarde pour marier. Mais il a fini de regarder tout fils ennemi. Il n'a pas marié avec aucun fils ennemi. Donc c'est quand même quelque chose. Et Shaitan veut dire que oui, mais un salam et tout, c'est pas grand-chose. Voilà une petite parole. Il me dit ça, Shaitan veut dire que, hein, n'oublie pas que le prophète m'a dit que hein, quand quelqu'un sourit à son prochain, c'est sadaqa. Sourire avec la tantine, c'est sadaqa. Le prophète m'a dit, afshu salam, abaynakum, faites salam entre vous. Et salam, tu fais là, c'est un musulman ça. C'est un musulman, ça fait des salams, ben quoi, vous donnez un doigt, un shaitan va vous avoir. Kalam, le prophète m'a dit que c'est un sadaqa de parler correctement avec son prochain, c'est des récompenses. Il dit, ben voilà, ça, on a besoin d'unité de la ummah, il faut parler, okay? Et puis peu à peu, shaitan vous amène vers l'usine. Donc celui qui arrive à contrôler ce regard, Inch'Allah, c'est quelqu'un qui définitivement sera préservé du zina. Deuxième chose, éviter les situations ou les endroits où il y a risque de succomber, de tomber de l'usina. Et la pire des choses, c'est la promiscuité. Ou alors qu'un homme et une femme soient ensemble, isolés dans un endroit sans qu'il n'y ait une troisième personne. Parce que ça veut dire que lorsqu'un homme est avec une femme dans un endroit, la troisième personne, c'est qui? La troisième personne, c'est Shaytan. Même si on appelle ça des relations de travail, il n'existe pas de relations de travail ou des relations amicales. Ça, c'est impossible, ça. Quand il s'agit d'un homme et une femme, même si la femme n'est pas jolie, Shaitan va faire en sorte que nous percevons cette femme comme étant la plus jolie des femmes. Parce que Shaitan a ce pouvoir d'embellir les actions. Zayyana lahum Shaitan wa a'malahum. Si Shaitan est capable d'embellir un péché, vous ne pensez pas qu'il sera capable d'embellir à nos yeux une femme, quelqu'un de sexe opposé? C'est dans les pouvoirs de Shaitan. C'est pour ça que le prophète a interdit à un homme de se retrouver dans l'intimité seul avec une femme. Même si c'est dans les relations professionnelles ou amicales, on ne doit pas être seul avec une femme. Deuxième chose. La troisième chose, il faut prendre des précautions, éviter que par notre apparence, nous sommes une source de fitna. Cela concerne tant l'homme que la femme. C'est sûr qu'il y a plus de hadiths mis en garde pour les femmes, parce que Allah a accordé la beauté à la femme. Ça aussi qu'on n'a pas besoin de dire, monsieur, coupe ce visage, mettre châle. Pourquoi il ne dit pas nous mettre châle? Parce que la femme a eu la beauté par rapport à ses cheveux. C'est pour ça qu'Allah a demandé à la femme de se couvrir les cheveux. Donc le prophète a expliqué qu'une femme qui se parfume et qui sent, le prophète a expliqué quel péché a cette femme qui se parfume, qui sent, qui passe à côté des hommes et que les hommes se retournent pour sentir l'odeur, le parfum de cette femme. Également, dans le Coran, il est mis en garde contre ces femmes qui mettent des chaussures ou alors des bracelets à leur cheville, que lorsqu'elles marchent, ça fait du bruit. Et donc, ça attire le regard, ça attire l'attention sur elles. Et il y avait un hadith, que j'ai pas amené le texte, mais le sens environ, il y a une mise en garde sévère contre l'homme ou la femme qui s'habille qui s'habille de ses plus beaux vêtements dans le but de séduire pour arriver au zina. Ça aussi c'est un péché, de s'habiller correctement dans le but de séduire une fille, de séduire un garçon, dans l'objectif d'arriver au zina. Ça aussi c'est un péché. Donc éviter tout cela, ça nous permet inchallah de rester éloignés du zina. Quatrième point, nous devons comprendre, c'est l'avant-dernier point puis c'est terminé, nous devons comprendre comment le zina peut être perçu par les responsables de la personne d'en face. Moi, j'ai vu une fille qui me plaît, j'ai le coup de foudre, je suis amoureux, j'ai envie de sortir avec elle et aller jusqu'au zina. C'est mon plaisir, j'ai envie de le faire. Elle a envie, mais moi, si je me mets à la place du papa de cette fille, que si je sais qu'il y a un garçon qui est en train de faire la jute avec ma fille, est-ce que j'accepte ça? Si je suis le frère de cette fille, est-ce que j'accepte que quelqu'un est en train de faire l'adultère avec ma sœur, ou avec ma mère, avec ma tante, avec ma nièce? Et cette psychologie-là, le prophète sallam l'a expliqué. Un jeune homme qui vient voir le prophète d'Allah, je te demande l'autorisation de faire le zina. Déjà, il connaissait que le zina, c'est haram. Mais il est jeune, et l'envie a atteint le summum. Il dit au prophète d'Allah, donne-moi l'autorisation. Et les sahaba, ils ont entendu ça, j'étais en colère, ils disent, c'est un malade, comment il ose demander au prophète l'autorisation de faire ce péché qui est haram? Le prophète a dit au sahaba, laissez-moi, je vais lui parler. Le prophète a dit qu'il explique à ce jeune homme, est-ce que tu aurais aimé que quelqu'un fasse zina avec ta maman? Il dit, jamais au prophète d'Allah, je n'aurais jamais toléré ça. Il dit, mais les gens ils sont pareils, ils ne veulent pas qu'on fasse zina avec leur mère. Aurais-tu aimé que quelqu'un fasse adulter avec ta fille, puis pareil avec ta soeur, etc., etc. Chaque fois, ce jeune sahaba dit jamais au prophète d'Allah. Et le prophète expliquait que les gens sont pareils. Donc, c'est-à-dire, cette fille que tu as aimée, elle est bien la soeur de quelqu'un. Elle est bien la fille de quelqu'un. Ou éventuellement, si c'est un certain âge, elle est bien la mère de quelqu'un. Tout comme eux, ils ne veulent pas qu'on fasse zina avec leur cher, leur proche. C'est pareil pour toi. Tu dois penser comme ces personnes-là. Et là, le sahaba, il a compris. Et à partir de ce jour, le zina est devenu le péché le plus détestable pour cette personne. Comme expliqué la dernière fois, hein, ces gens qui disent on sort ensemble pour voir est-ce que ça me plaît. Et on doit se mettre à la place de ce papa. Est-ce qu'il accepte que quelqu'un dit je vais tester ta fille un mois, je vais essayer ta fille deux mois, ça me plaît, je garde, ça ne me plaît pas, je te rends. Si on a un peu d'amour propre, jamais on n'accepterait ça. Donc on comprenne bien que ces thèses de sortir ensemble, mieux se connaître, tout ça c'est des âneries. Ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête. C'est uniquement de l'obéissance au d'Allah Azza wa Jal que nous aurons le succès et que surtout nous connaîtrons le bonheur de ce domaine. Ce n'est pas parce qu'un couple, ils ont été ensemble pendant un an ou deux ans, que lorsqu'ils vont se marier, ils seront heureux. Combien de gens qui sont mariés en se voyant une seule fois ou deux fois comme c'est la sunnah et Allah a mis une baraka, une bénédiction spéciale par rapport à leur obéissance aux ordres de la dernière chose, et c'est le plus important, et c'est le plus gros problème dans les discussions que nous avons avec les jeunes, des discussions que les parents, ils ne pourront pas comprendre. Mais que quand on a une certaine limite, quand on a une certaine relation avec les jeunes, il y a des échanges, et on découvre certaines choses, et que les anciens ne peuvent pas imaginer. Le problème, c'est le problème du mariage. Alors, la solution pour le zina, c'est de se marier. Le prophète m'a expliqué que le mariage c'est la moitié du iman. Le problème que nous avons de nos jours, c'est quoi? C'est que nous exigeons tellement de choses de la part de notre fils pour qu'il se marie, ou de la part de notre fille, nous avons tellement d'attentes pour elle. Avant qu'elle accepte une demande, il faut que le garçon soit comme ci, comme ça, que nous retardons le mariage. C'est-à-dire que si le garçon n'a pas un travail, il n'a pas son appartement, il n'a pas sa voiture, il n'a pas au moins 2000 euros de salaire, etc., etc., ben, il n'est pas possible de marier. Il faut attendre. Alors que peut-être le garçon et la fille s'aiment vraiment et qu'ils font tout pour résister, pour ne pas succomber aux zina. Alors il faut que les parents comprennent que si vraiment, à condition que ce soit des gens sérieux, c'est pas quelqu'un qui chante de fille ou de garçon tous les mois, non. Si on voit qu'on a un fils ou une fille qui a atteint 18 ans, 19 ans, sérieux, que c'est une relation qui a envie de se concrétiser par un nikah, si le maman et le garçon sont en train de faire ses études, ou que la fille est en train de faire ses études, il y a une solution de l'islam, c'est quoi? C'est de permettre le aqd al-nikah, le contrat du mariage, sans qu'il y ait, qu'on pourrait appeler en français, sans qu'il y ait livraison, sans qu'il y ait dukhul, que le garçon et la fille font le nikah, avec le alim qui fait le khutbah, tout un nikah normal, mais il y a une charte, une condition, c'est que, voilà, on fixe, la vie commune commencera dans 3 ans, ou dans 4 ans, ou dans 5 ans. Bien que jusqu'à cette limite-là, ils n'ont pas le droit de vivre ensemble, mais qu'ils se fréquentent, qu'ils se voient, qu'ils se parlent et tout, ils ont le droit de le faire. Et cela procurer au garçon comme la fille une tranquillité. Parce qu'un garçon, il a peur de quoi, lui? Je vous dis clairement. Il est amoureux d'une fille, il a peur, la fille est amoureuse de lui, mais il a peur qu'un jour, la fille reçoit une demande de quelqu'un de très riche et que le parent oblige à faire, accepte sa sœur, un grand famille, marier avec lui. Et que lui, il a cet amour de son cœur, il entretient depuis 2 ans, 3 ans, et que tout d'un coup, l'oiseau s'envole de la cage. Ça, c'est une crainte qui existe. Et on a eu des cas, des jeunes qui font des études, et il revient, le fils de marié, il est dépité. Donc, le fait de le permettre, ça tranquilliserait le cœur de ces gens, et ça éviterait de tomber dans le zina. Maintenant, il faut qu'il y ait une certaine équité entre les deux, tant du côté du garçon, du côté des filles. Ce qui est malhonnête, c'est quoi? C'est que très souvent, il y a des jeunes garçons qui sont au volage. Ils ont fait toutes les boîtes de l'île, ils ont fait zina, l'adultère avec je ne sais combien de filles, et arrivés à l'âge de 25, 26, 27 ans, ils décident de se marier. Et qu'est-ce qu'ils veulent pour se marier? Je veux une fille propre. C'est comment ça? Ah, on a fini visiter toutes les filles du quartier. On vient de faire Moufia, Saint-Clotilde, Chaudron, Montgaya, la Grande Montée, on connaît tout, il connaît à eux. Et quand il arrive pour marier, on veut une fille qu'elle a encore l'emballage sous vide d'air. Ça, c'est pas possible. D'accord? On ne peut pas exiger, si nous-mêmes, nous ne respectons pas ce qu'on appelle al-ifa, le fait de rester pur, le fait de rester éloigné, la chasteté, et rester éloigné du zina, si nous ne respectons pas, parce que pour l'homme, il n'y a pas de traces physiques. Pour la femme, oui, une femme qui a déjà des relations, c'est clair, ça se reconnaît. Comment pouvons-nous, c'est hypocrite et malhonnête, d'exiger qu'un homme, il ne marie pas qu'une petite fille, il a fini son avec des gars. Moi, il veut qu'une fille qui est encore vierge, qui reste bien à la maison, il va faire que mon manger, il va occuper ma famille et tout. C'est-à-dire que nous, on a profité de la vie et on veut quelqu'un qui s'est toujours protégé. Non, il faut être équitable. Donc, tant du côté du garçon que du côté de la fille, la pudeur, la chasteté, c'est quelque chose d'important. Et si on a été toujours chaste et pudique, inshallah, Inch'Allah, l'Atala accordera à ces personnes les gens qu'ils méritent, qui ont toujours eu cette crainte d'Allah dans leur cœur. Et pour celui qui a su se protéger du zina, le 18e séparat commence par après Al-Mu'minun. Les mu'mines, les vrais Ahlul Iman, ils ont eu le succès. Et parmi les descriptifs de Ahlul Iman, Wallalinahum, les furujihim hafidhun, ceux qui protègent la partie cachée, c'est-à-dire ceux qui restent éloignés du zina. Et on avait vu ce hadith cette fois. Le prophète avait dit que celui qui se protège du zina et qui protège sa langue contre le fait de dire n'importe quoi, le prophète a garanti du paradis. Autre hadith, une femme qui fait sa salat, donc qui respecte les 5 piliers d'islam, rien de plus, et qui a le contentement de son mari, c'est-à-dire qui reste chaste, qui s'éloigne du zina et dont le mari est satisfait, c'est une femme du paradis. Pas besoin de grand-chose, Le madame fait 5 farazs par jour, il fait rosa, elle jeûne le ramadan, elle a fait un hajj si elle peut le faire, elle donne zakat si elle a les moyens, basta. On n'a pas demandé d'autre chose. Pas demandé le tahajjud, khatm al-Qur'an, 10 000 tasbih, non. Et que son mari est satisfait d'elle, c'est une femme du paradis. Il n'y a pas besoin de grand chose pour accéder au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait l'histoire des 3 personnes de la grotte. Et ils avaient chacun pour demander, oh Allah, j'ai fait telle action tel jour, si tu es satisfait de moi, oh Allah, protégez-nous de cette calamité. Et il y a un jeune qui avait dit que, à telle époque, j'étais amoureux de ma cousine. Et je faisais des avances à ma cousine, elle a toujours refusé. À un moment, il y a eu la famine. Et elle m'a dit que ma famille meurt de faim, j'accepte de me donner à toi, contre une somme d'argent. C'était un cas désespéré. Et là, l'homme, il est content, il en rêve. Elle dit, au moment d'accomplir le zina, et le hadith, c'est décrit, elle dit que mes jambes étaient entre ses jambes. C'est-à-dire, il allait faire le zina, cette fille lui a rappelé la crainte d'Allah, et là, il s'est souvenu d'Allah, et là, il a décidé de ne pas faire le zina. Et Allah Ta'ala a tellement apprécié cela parce que c'était, Shaitan l'avait eu, mais la seule chose qui l'a empêché de faire le zina, c'était la crainte d'Allah et Allah Ta'ala les a délivrés, entre autres par le biais de ce péché, de cette bonne action, de cet éloignement du zina. Qu'Allah Ta'ala donne la compréhension, mes chers frères, de ce qu'on a dit, qu'Allah nous protège parce qu'on n'est pas protégé. C'est pas parce que j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans que je suis protégé. Il y a beaucoup qui disent quand il arrive 50 ans, 60 ans, vous voyez ça. Souvent, quand il arrive à certain âge, il y a des envies qui reviennent, comme quand on avait 18 ans, 20 ans, 30 ans. Pas. Donc, il n'y a pas d'âge. Le zina n'est pas réservé aux jeunes. Qu'Allah nous protège jusqu'à notre mort. Que jusqu'à notre mort, jamais on quitte les limites d'Allah Azzawajal, les limites de la charia concernant les péchés, concernant les relations sexuelles, concernant le zina ou autre chose. Pas. Et qu'Allah protège nos enfants. Que jamais nos enfants succombent à ce genre de péché. Et à nous, en tant que parents, d'être toujours à l'écoute de nos enfants. De parler. Parfois, on ne sait pas si notre fils, parfois, il a envie de nous dire quelque chose. Ou notre fille a envie de nous expliquer quelque chose, de nous livrer des sentiments. Nous devons être présents. parce que sinon il va faire son travail tout seul et on ne saura pas qu'est-ce qui se passe. Être présent, et si on peut apporter une solution, comme on l'expliquait tout à l'heure, nous serions vraiment les meilleurs des parents. Tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna, salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, jazakallahu khair.